Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Quand on est embourbé dans une histoire qui ne nous rend pas heureux, on a deux solutions. Soit on se trouve des excuses pour rester et on arrête de s'écouter, soit on ose et on va chercher du courage, on se souvient que rien n'est figé. Laurine voulait être heureuse coûte que coûte, quitte à aller chercher son bonheur à l'autre bout de la planète, quitte à risquer de tout perdre.
On est en avril 2014, j'ai 20 ans et je décide de prendre un billet d'avion pour l'Australie pour être fille au pair pendant un mois et demi dans une famille à Townsville. Et je suis bien décidée à partir parce que je sors de vraiment plus de 2 années dans un tourbillon vraiment de tristesse et un tourbillon d'échecs personnels. Donc je viens de vivre 2 années universitaires d'échecs au cours desquelles j'ai perdu plusieurs amis. Donc une année environ avant cette décision de partir en Australie, je reçois un texto d'un ami que j'avais rencontré plusieurs années auparavant qui me propose d'aller boire un verre. Et je me rends compte très vite pendant ce rendez-vous qu'il est charmeur, très dragueur. Je me dis tout de suite, bon bah lui ça va pas le faire, mais en même temps c'était un peu la première chose positive que je vivais depuis plusieurs mois. Et donc on commence à créer une relation, je vais chez lui et on se voit régulièrement. Quelques mois après le début de cette relation, je reçois un message d'une fille qui me demande qui moi je suis et qui me dit « Voilà, bah écoute, moi je suis la petite amie de celui que tu considères comme ton petit ami. Je suis vraiment pétrifiée, donc j'en parle tout de suite à mon petit ami. » Et il m'explique très vite que cette fille, effectivement, c'est son ex, elle est complètement folle, qu'elle a déjà brisé sa relation antérieure et qu'il faut surtout que je fasse très attention à moi, qu'elle peut être très violente, qu'il faut surtout que je la bloque de tous les réseaux. Donc moi, lui faisant une confiance réellement aveugle, je la bloque, je fais vraiment tout ce qu'il me demande. En août, je suis en vacances avec mes parents et là, mon papa se blesse très gravement et donc je demande à ce petit copain de nous rejoindre. On est en Bretagne et il vient et là vraiment, d'une part, je passe des jours vraiment difficiles parce que mon papa va très mal et d'autre part, lui-même est très désagréable avec moi, très distant. C'est là vraiment où je découvre un visage désagréable et presque qui me fait peur, en tout cas qui... Je me sens complètement abandonnée par lui. Arrive donc mon anniversaire. Mes parents organisent une petite fête, sachant que donc mon papa sort de l'hôpital pour ce jour-là. C'était un jour joyeux. Évidemment que mon copain est invité, mais il ne vient pas. On l'attend, on se demande mais qu'est-ce qu'il fait. Donc moi, j'étais très gênée, sachant qu'au fur et à mesure des semaines, il continue un petit peu à s'éloigner. Il arrive extrêmement tard, finalement, tout à la fin de la soirée. Il m'explique qu'il a eu des gros soucis, qu'il a besoin d'argent. Il m'explique qu'il y a des problèmes avec sa famille, qu'il a besoin d'aide finalement, qu'il a besoin de moi en tout cas. Je décide concrètement de lui venir en aide. Disons qu'à partir de ce jour-là, je mets de côté moi-même ce que j'attendrais d'une relation. À ce moment-là, je commence une nouvelle licence. Je commence des nouvelles études qui me plaisent énormément. Mais je passe beaucoup de temps chez lui à l'aider et à faire tout ce que je peux pour le soutenir face à ces problématiques. Et puis, on arrive en octobre, où c'est un soir où on rentre avec des pizzas à la maison, enfin dans son appartement. Et il reçoit un appel, et là, je le vois mais blêmir totalement. Il me dit, écoute, reste dans la maison, surtout enferme-toi, n'ouvre pas la porte, surtout, c'est très important. J'ai vraiment eu très peur sur le coup. Et là, j'entends tambouriner la porte, j'entends une voix de femme derrière qui hurle, qui me supplie d'ouvrir. Donc, je finis par ouvrir. Donc, je vois cette fille rentrer dans l'appartement qui me dit, voilà, bah, je sais pas qui tu es, mais moi, lui, c'est mon conjoint. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Et donc là, je me rends compte que c'est son ex folle qui rentre dans l'appartement. Donc je lui dis, écoute, il m'a déjà très bien expliqué, je vois très bien qui tu es, je sais que tu as déjà détruit une grande partie de sa vie, donc s'il te plaît, on te demande de sortir, etc. Et là, je la vois se décomposer, s'effondrer complètement devant nous, et me supplier de la croire, de me dire, écoute, il est manipulateur, et s'il te plaît, crois-moi. Il nous trompe, enfin, il te trompe avec moi et moi je suis sa conjointe. Donc je mets beaucoup de temps à le réaliser et puis finalement je finis par la croire. Et je dirais que ce jour-là, ça a été un vrai tournant dans cette relation. Ce soir-là, j'assiste à une vraie scène de violence complètement menée vers elle. Donc c'est-à-dire que j'assiste à cet homme qui devient très violent verbalement envers elle, puis qui la plaque contre un mur et qui est vraiment dans une colère monstrueuse. Et moi, je suis juste pétrifiée en face de ça, c'est-à-dire que je n'arrive pas du tout ni à bouger, ni à réagir, ni à me mettre entre eux. Le souci, c'est que suite à ça, il reprend contact avec moi très rapidement, en me promettant de changer, en me promettant que c'était moi qui choisissais et qu'il n'y avait aucun doute. Et je pense que je rentre dans une vraie dépendance affective, donc pendant vraiment de très nombreux mois, il y a comme une spirale qui se met en place. Je dis une spirale vraiment négative parce que il me demande donc de revenir vers lui, de l'aider, qu'il a toujours autant besoin de moi. Et moi, j'y retourne. Sauf que je dirais qu'à chaque fois que j'y vais avec énormément d'espoir de le retrouver, de retrouver une relation comme on l'avait au début, c'est-à-dire qui m'apportait quand même beaucoup de chaleur dans ma vie qui était assez difficile à l'époque. Il avait des actes violents et à chaque fois il me demandait de l'excuser et qu'on retrouve une relation, on va dire, normale et moi j'avais espoir. J'ai la chance tout de même cette année de vivre une vie universitaire extrêmement enrichissante et je suis très très épanouie au niveau de mes études. Je me dis que c'est pas possible du tout que je sois aussi malheureuse à 20 ans et j'entends plusieurs personnes me parler que c'était assez facile de trouver un job en tant que fille au pair à l'étranger et je trouve que c'est une sacrément bonne idée, que ça va me permettre d'apprendre à parler anglais, de voir des choses nouvelles et je m'inscris sur un site et je tombe sur une annonce d'une famille qui recherche une fille au pair pour entre 1 mois et 3 mois pendant l'été et en Australie. Je me dis, si moi je pars pas physiquement, je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas et en plus, il commençait vraiment à me parler de projets beaucoup trop importants. Je n'étais pas du tout prête à ça. Il voulait des enfants avec moi. Et dans les moments où il était agréable avec moi, il me promettait vraiment la lune. Vraiment, j'étais sa reine et il prendrait soin de moi toute ma vie. C'était en même temps dans ces moments-là réconfortant et à chaque fois que son visage rechangeait à nouveau et devenait très désagréable et violent, je me disais non mais surtout pas, ne te marie jamais avec lui, n'aie jamais d'enfant avec lui, quoi que ce soit. Et je sais qu'à ce moment-là, je ne lui en parle pas du tout, de peur qu'il me retienne et qu'il arrive à me convaincre de ne pas partir. Or au fond de moi, je savais pertinemment que c'était ça dont j'avais besoin. Il n'y avait que comme ça que je m'en éloignerais et je me suis bien gardée de lui dire. Je l'ai informé 2 semaines avant mon départ. Je pense que sa réaction était mesurée lorsque je lui ai annoncé que je partais parce que je lui avais fait croire qu'on pourrait se retrouver ensuite. À aucun moment, je lui ai dit « je te quitte, je pars en Australie ». Je lui ai dit « j'ai un projet, je veux être fille au pair en Australie » sans mettre notre relation dans cette décision. Au moment finalement où je prends cette décision de partir, donc j'achète mon billet assez rapidement, j'informe mes parents, j'ai beaucoup de soutien de la part de mes parents. Je sens déjà une joie en moi que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Et les préparatifs sont en soi extrêmement agréables. Je regarde tout ce que je pourrais faire en Australie. Donc, je prévois à ce moment-là un petit peu moins de 3 mois de voyage en tout. Donc, 1 mois et demi en tant que fille au pair. Il me restait donc de plusieurs mois à préparer et à imaginer ce que je voulais voir. Donc, on arrive le jour du départ en Australie. Mes 2 parents m'accompagnent. Et il y a vraiment une émotion très particulière qui est en lien avec ça parce que c'est la première fois que je pars aussi loin, aussi longtemps que de ma famille. Et donc, lorsque je leur dis au revoir, que je me retrouve pour la toute première fois à l'aéroport, toute seule avec mon sac à dos, là, je m'effondre comme si toutes les larmes que j'avais pu retenir pendant des mois sortent tout d'un coup. Donc vraiment, je pleure à chaudes larmes. Je me souviens que tout le monde me regardait comme si j'avais perdu un proche, mais il faut quand même le dire que j'étais un petit peu apeurée à l'idée d'être toute seule en Australie. Aller vers cet inconnu m'impressionnait beaucoup et j'avais un mélange de peur, de joie, de tristesse et beaucoup, beaucoup d'espoir. J'arrive en Australie, donc là je suis accueillie par cette famille qui m'accueille vraiment chaleureusement. Et donc je découvre ce job de fille au père qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup. Donc moi je dois prendre soin de 5 enfants. C'est vraiment un boulot à plein temps, du matin au soir, où je me rends compte que je m'attache beaucoup à ces enfants et on vit des choses assez fortes finalement, on est vraiment au sein d'une famille. Et là je suis vraiment coupée du monde, c'est-à-dire que j'ai très peu de réseau. J'ai un téléphone avec lequel j'appelle ma famille, mais c'est à peu près tout. Et je ressens aucun manque de ce que j'ai pu vivre. Je me sens détachée au plus haut point de cette relation toxique. C'est-à-dire que j'y pense, mais que pour essayer de prendre du recul et me dire « Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pour que tu t'engraines dans cette relation ?» Et à ce moment-là, je me fais vraiment une promesse très claire, c'est que plus jamais ça. Suite à ce mois et demi dans cette famille avec ce job à temps plein, je décide de passer le mois et demi suivant à voyager avec mon sac à dos dans des auberges de jeunesse. Donc, je me rends dans un premier temps à Cairns. Là, vraiment, je rencontre énormément de personnes. C'est vraiment la fête, les rencontres. Je vois vraiment des paysages extraordinaires. Je peux découvrir la Grande Barrière de Corail. Je vais voir la forêt tropicale. Moi qui suis profondément passionnée par la biologie et les écosystèmes, je vis vraiment des jours mais merveilleux, incroyables. Suite à cette visite à Cairns, je souhaite absolument aller à Darwin parce qu'il y a des parcs nationaux qui me donnent très envie, dans lesquels on peut voir des paysages avec des terres rouges et des grandes termitières, enfin des choses qui, moi, me plaisent énormément. Donc, je m'envole pour Darwin, j'atterris et donc j'arrive dans une auberge de jeunesse dans laquelle je me rends compte qu'il y a énormément de Français. Chose à laquelle je n'étais plus habituée parce que je rencontrais principalement des personnes d'origine différente. J'ai un seul objectif, trouver des personnes qui seraient partantes pour partir avec moi, louer une voiture et faire quelques jours dans ces parcs nationaux réputés. Donc je parle à tout le monde, mais un petit peu comme à mon habitude. Rapidement, je m'intègre dans le groupe de potes français qui étaient présents depuis plusieurs jours, voire certains plusieurs semaines, dans cette auberge. Dans ce groupe, il y a deux jeunes hommes qui acceptent de m'accompagner. Je suis vraiment ravie. Donc, il me reste 3 jours avant de partir dans les parcs nationaux. Et on est en soirée. Et là, je vois un garçon s'asseoir en face de moi. Il est plutôt muet. Il ne parle pas. En tout cas, il ne s'intègre pas dans la conversation. Donc, je lui demande en anglais comment est-ce qu'il va. Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Enfin, j'essaye vraiment de l'inclure avec nous dans le groupe. Il me répond en anglais. Voilà, de manière tout à fait distante, voire conventionnelle. Je repère très très vite son accent français, donc je lui dis « bon bah si t'es français, viens avec nous, c'est super ». Mais je vois qu'il n'est pas non plus super emballé. Très rapidement, je me rends compte que j'ai envie qu'on parle, en tout cas j'ai envie de le découvrir à ce moment-là. Finalement, dans les auberges de jeunesse, les liens se construisent très très rapidement. Donc on décide tous ensemble de se rendre au marché de nuit. Ce garçon qui m'avait intriguée, qui s'appelle Maxime, nous rejoint aussi. Et là, c'est vrai que je ressens vraiment de la joie à l'idée de pouvoir passer un moment avec lui, apprendre un petit peu plus à le connaître. Et dès le début de cette soirée, je suis très attentive à ce qu'il fait et je me rends compte qu'il est extrêmement souriant et qu'il rigole beaucoup et je le trouve extrêmement drôle. Je me rends compte qu'à chacune de ses blagues, je rigole et parfois même je suis la seule à rire, mais il me plaît dans son attitude et dans sa manière d'être. Et toujours cette sensation qu'il est très à l'écoute des autres et aussi très à l'écoute de moi. Il me pose beaucoup de questions, il est très intéressé de savoir quel a été mon voyage à moi ou comment j'en suis arrivée là. On passe vraiment tous les deux presque une soirée, en tout cas dans notre bulle, où on rigole des mêmes choses, on voit les mêmes choses et il commence à me raconter des choses de sa vie, mais d'une manière très joyeuse et très simple. Il m'explique que lui voyage en Australie seul aussi. Il travaille en tant que pâtissier en Australie, qu'il a fait de très nombreuses villes déjà. Il me raconte qu'après ça, il prévoit de partir à Cairns et surtout de continuer son voyage en Nouvelle-Zélande, puis en Asie. Donc c'est vrai que là, je me dis « Waouh, mais quel projet, c'est formidable !» Je me sens déjà très contente pour lui et lui-même est intéressé par mon parcours à moi. Il est grand, il est brun, il est joyeux. Vraiment, il me plaît, mais d'une manière... Enfin, c'était comme s'il ne me plaisait pas uniquement physiquement. Il me plaisait aussi dans son attitude et dans sa manière de se comporter avec les autres, être très tendre et joyeux et drôle à la fois. J'ai vraiment le sentiment qu'il ne me regarde pas du tout. Pourtant, je suis très présente à côté de lui, mais il a vraiment un rapport avec moi d'ami rigolo. Mais je ne sens pas du tout que moi, je lui plais. À la fin du marché de nuit, tout notre groupe se rend à l'auberge et prévoit de partir en boîte de nuit. Et je me rends compte que Max n'a pas très envie de partir en boîte de nuit, donc très très vite, moi, j'ai pas du tout envie non plus. Et donc, on reste tous les deux à l'auberge autour d'une table. On a vraiment amorcé une très longue conversation qui a finalement duré toute la nuit, au cours de laquelle on s'est beaucoup livré l'un à l'autre, où j'ai pu vraiment lui expliquer mon histoire et lui a pu vraiment m'expliquer aussi sa démarche. Et moi, je me rends compte que tout au long de cette conversation, à chaque fois qu'il avançait une phrase, c'est comme si je me reconnaissais dans certains points de sensibilité. Et j'avais d'ailleurs tout mon corps tremblant. C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais ressenti et une sorte de connexion qui s'était mise en place. En tout cas, moi, j'en étais persuadée que c'était mon cas. Enfin, moi, je sentais bien que j'étais dans cette émotion-là, mais je ne voyais aucune émotion particulière se dégager de lui. Donc, je restais très réservée. Donc, on était très intimes et en même temps très distants physiquement, en tout cas. Donc, moi, je ne ressens vraiment pas de réciprocité à ce moment-là sur les émotions que je pouvais ressentir. Cette conversation, bien que très intime, se termine avec un au revoir amical. Et on retourne chacun dans nos lits, donc dans cette auberge. Et il s'avère que le lendemain, je dois partir pour les parcs nationaux. Et juste avant de le quitter, je lui dis « Écoute, est-ce que tu es sûre de ne pas vouloir venir avec nous, sachant qu'on avait une place dans la voiture ?» Et il me dit « Écoute, non vraiment, moi j'ai mes projets. Dans quelques jours, je dois partir à Alice Springs, qui est au centre de l'Australie. J'ai déjà vu les parcs et je n'ai pas envie de recommencer ça, même si ça me plairait beaucoup. » Quand il me dit ça, j'étais très triste de me dire « Bon bah voilà, il ne viendra pas avec toi. » Et de l'autre côté, en me disant « Écoute, vraiment, ce mec... » Il a les pieds bien sur terre, il a ses objectifs et personne ne peut l'y déroger. Le lendemain matin, je me réveille, mes bagages sont prêts et au petit déjeuner, je le vois arriver. Donc je le vois prendre son petit déjeuner alors qu'il était vraiment tôt. Je comprends qu'il a fait l'effort de se réveiller pour me dire au revoir. Je ressens de nouveau cette émotion extrêmement forte, comme une sensation de quelque chose de pas achevé, ça c'est sûr, et une très grande tristesse à l'idée de le quitter. On se retrouve, on se dit au revoir, et là, il y a un très, très bref échange tendre, donc on se fait un hug très rapide et un au revoir. Et là, vraiment, je monte dans cette voiture et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on se quitte comme ça, c'est trop rapide, c'était trop intense et je le connais pas assez. Et là, j'ai vraiment le sentiment que mon cœur se brise. Et je me dis, voilà quoi, c'était trop rapide. Et puis moi, je sentais rien du tout de son côté. Donc je me suis dit, c'était lourd. Vraiment, ce moment-là, il a été lourd pour moi. Je me suis dit, bon bah ok, voilà, tu lui as dit au revoir. Puis c'est comme ça. Je pars pour ces quelques jours de visite dans les parcs. Je passe un super moment. Et arrive le moment où je dois rentrer en France. Je n'avais aucune nouvelle de Max. Et me dit, écoute, vraiment pour moi, cette rencontre, ça a été un coup de foudre. Il faudrait quand même que tu lui dises ce que tu as ressenti. Donc, je lui envoie un très long message dans lequel je lui explique que j'avais rencontré vraiment beaucoup de personnes en Australie, mais aucune ne m'avait intriguée et touchée et plu autant que lui. Donc, je lui donne quand même mon nom sur Facebook et j'attends une réponse que je n'ai pas du tout. Je désactive ma carte SIM, je remonte dans l'avion et je retourne à Paris. Lorsque je pars de l'Australie, vraiment, je suis dans un état d'esprit heureuse et apaisée en ayant le sentiment que j'avais fait mon voyage comme il le fallait. Et j'avais très envie de reprendre mes études, j'avais très envie de continuer à construire ma vie personnelle. Ça, c'était vraiment très positif pour moi. Et en même temps, mais j'avais toujours Max en tête et j'attendais vraiment qu'il me donne une réponse. J'y pensais tout en essayant au maximum de me raisonner. et de me dire, certes, tu as eu un coup de cœur, mais c'est pas réciproque, donc essaye de calmer là ton cœur qui s'emballe dès que tu y penses ou dès que tu repenses à un moment donné. Et là, ça a été plutôt une douche froide quand je suis revenue à Paris, parce que je rallume mon téléphone portable et en fait, une des premières personnes qui me contacte après mes parents, eh bien, c'est mon ex, qui retourne exactement dans les mêmes schémas qu'il utilisait en disant voilà, donc il savait que je revenais parce qu'on restait en contact finalement très lointain où j'avais dû au moins lui donner mes dates de retour. Et là, je me dis, bah non, il est hors de question que je le retrouve, il est hors de question que je retombe dans ce cheminement vraiment terrible. Et donc, je lui réponds, mais de manière très, très distante. Et là, je me sens forte. Je me sens vraiment prête à lui redire non, c'est terminé. Et puis, j'avais rencontré tellement de personnes qui m'avaient expliqué tellement d'histoires, qui m'avaient vraiment partagé leur aventure de vie, que je me disais, bah, on peut tellement être heureux, tellement vivre des choses incroyables, qu'il est hors de question que je me renferme là-dedans. Donc, je redémarre ma licence vraiment positive, comme je le voulais, quoi, vraiment indépendante, contente et pleine de vie. Je dirais à nouveau pleine de vie, comme ça n'avait pas été le cas depuis des mois. Mais toujours avec cette idée de « mince, bah, Max ne m'a pas répondu ». Et il avait mon Facebook, mais moi, je ne l'avais pas du tout sur Facebook. J'étais incapable moi-même de le retrouver. Donc, j'étais juste dans l'attente d'une réponse. Et c'est arrivé quelques semaines après mon retour, où il m'envoie un très long message sur Messenger, dans lequel donc il m'explique qu'il n'avait aucun réseau, mais qu'effectivement, il avait été très heureux de me rencontrer, qu'il avait passé une très bonne soirée. Et qu'il fallait absolument pas que je m'inquiète parce qu'il avait vérifié à plusieurs reprises que si on était mené à se revoir, eh bien, on se retrouverait. Là, j'étais en joie comme jamais. Donc là, je lui réponds un roman. Je lui raconte mon retour à Paris. Je lui raconte que je me sens très heureuse et que je pense toujours à lui et que ça reste toujours la rencontre qui m'a le plus marquée en Australie, tout en restant très mesurée dans mes propos, parce que lui-même ne démontre pas un enthousiasme ou une démonstration de sentiments quelconque. Donc, on reste toujours dans ces échanges cordiaux. Et là, plus de nouvelles. Vraiment plus de nouvelles pendant 2 mois environ. Et il m'envoie un simple message très court dans lequel il me demande de l'aide pour une amie à lui, qui cherche aussi à être fille au père. Donc là, c'était clairement pas le genre de réponse à laquelle je m'attendais. Donc je réponds très succinctement, et puis voilà, pas du tout de nouvelles. Là vraiment, à ce moment-là, je suis détachée de lui, et ça me pose plus de soucis. Enfin voilà, la parenthèse australienne est terminée, je suis dans mes études, je suis très contente, et voilà. Sauf qu'au mois de novembre, il poste une photo de lui faisant un saut en parachute. Je m'empresse de commenter sans arrière-pensée, en disant que c'est génial, que je l'ai fait aussi, et que vraiment, expérience super, j'étais très contente qu'il ait vécu ça aussi. Et là, on entame une conversation privée sur Messenger, les messages s'enchaînent et on ne cesse de se parler, et à partir de là, on se parle quotidiennement. À travers ces échanges, j'essaye de lire entre les lignes chaque signe qui pourrait dire que je lui plais ou autre. En tout cas, à chaque message reçu, mon cœur explosait de joie et j'étais dans une émotion tellement heureuse et tellement impatiente de savoir ce qu'il allait me dire, ce qu'il allait me répondre, sachant qu'il était toujours dans cette écoute et dans cette tendresse par écrit. Je ne me pose aucune question sur les conséquences du fait que moi je tombe éperdument amoureux de lui à distance. Vraiment, j'avais une double vie. En plus, c'était une double vie très agréable parce que j'étais à l'université et j'étais vraiment très heureuse. Et à côté de ça, j'avais ma vie très intime de cette relation à distance avec Max. Et j'en parlais à très peu de personnes parce que, au fond de moi, je me disais quand même que voilà, c'était improbable et puis que de toute façon, lui, il voulait encore voyager pendant plusieurs mois. Et aussi, au fil des conversations, il m'explique très bien qu'il n'aime pas du tout Paris, qu'il n'aime pas du tout la région parisienne, qu'il aime encore moins les Parisiens. Et donc, il m'explique qu'il comprend même pas le fait que moi, j'aime bien vivre à Paris. Donc, on échange là-dessus. Donc, j'étais vraiment que dans cet instant présent et dans ces échanges qui me plaisaient énormément et cette relation qui se mettait en place de manière quotidienne et très douce. On arrive dans la période de mes partiels et on parle vraiment de plus en plus et c'est constant. C'est-à-dire que je pense à lui, H24, et je n'attends qu'une seule chose, c'est des nouvelles de lui, sachant qu'on vit d'un bout à l'autre de la planète, donc on est complètement en décalé au niveau horaire, mais moi je reste réveillée et je connais parfaitement l'heure qu'il est en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Et je lui propose de faire un Skype. Donc, le Skype s'allume et là, je le vois et je revois son sourire, je revois tout son dynamisme et son regard aussi. C'est la première fois qu'on se revoit depuis qu'on s'était quitté en Australie. Ça faisait 4 mois qu'on ne s'était pas vu. Et là, je crois sincèrement que je suis tombée une seconde fois amoureuse de lui. La discussion est toujours aussi fluide, on est toujours aussi complice, c'est toujours aussi drôle et on ne voit pas du tout les heures passées de ce Skype. Il m'explique que lui a pris ses billets pour se rendre à Bali et que donc la semaine suivante, il serait à Bali pour environ 3 semaines, qu'il allait passer Noël à Bali. Et il a fallu qu'on raccroche parce que le lendemain matin, j'avais un partiel à l'université. Après le Skype, je n'arrive pas du tout à dormir et tout ce que je me dis, c'est que c'est pas possible. Je ne peux pas passer à côté de ce mec, qu'il me plaît trop. Et surtout, j'avais aucune envie de prendre le risque qu'il puisse rencontrer quelqu'un d'autre sur son chemin. Donc le lendemain, je me dis, et si je le rejoignais à Bali la semaine suivante? Donc j'en parle à mes amis les plus proches, sachant qu'elles-mêmes découvraient l'intensité de cette relation. Parce que j'en parlais tellement peu, j'avais tellement pas parlé de Max à mes amis autour, que là, je leur ai dévoilé toute cette relation intime et extrêmement forte, très rapidement, donc en quelques minutes. Finalement, mes amis sont plutôt soutenantes et m'encouragent, me disent que voilà, j'ai qu'une vie et que j'ai qu'à le faire et que dans tous les cas, eh bien, je sais très bien me débrouiller seule en voyage. Donc, il y a pire que d'être à Bali, même seule, pour quelques semaines. Sauf que la période de Noël, c'est quand même une période qui est assez particulière. J'en parle à mes parents, j'en parle dans un tout premier temps à mon papa qui était présent cet après-midi-là. Et je lui dis, voilà papa, écoute, j'ai quelque chose de très important à te demander. Si là maintenant tu me dis que je prends une mauvaise décision et que ma décision est vraiment irraisonnée, je le ferai pas. Mais par contre, si je sens un soupçon de soutien de ta part, je le fais et je pense que ce serait la plus belle chose qui pourrait m'arriver. Donc là, j'ai vu mon papa s'asseoir et voir être presque un peu inquiet. En tout cas, je le voyais me regarder avec des yeux à froncer ses sourcils. Donc je lui explique la situation en 2 secondes et je lui dis, voilà, alors moi j'ai rencontré un mec en Australie. Je le connais pas beaucoup, mais je le connais suffisamment pour avoir extrêmement envie de le rejoindre la semaine prochaine à Bali. Et je sais pas comment te dire, mais je pense qu'il me correspond et qu'il te plairait beaucoup. Mon papa a pris quelques secondes de silence et il m'a dit, écoute, je te fais confiance, fais-le. Donc là, j'étais vraiment estomaquée. Finalement, je pensais qu'il allait me dire non. En fait, je pensais que mes parents allaient me raisonner. J'étais prête à ça et je pense que je l'aurais compris parce que c'était quand même assez fou. J'avais 21 ans, tout juste. C'était la période de Noël. Vraiment, il y avait plein de raisons pour lesquelles ils pouvaient m'empêcher. Me voilà, ce vendredi soir, à me dire, OK, donc là, toute ma famille, a l'air d'être OK pour cette idée. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement en train de devenir folle. Enfin, en tout cas, je ne suis pas en train de prendre une décision complètement irraisonnée qui serait liée à mon engouement et à cet amour que je ressens pour Max. Sauf qu'il y en avait un qui n'était pas au courant de cette idée. Pour le moment, c'était Max. Donc j'attends avec impatience qu'il se réveille et lui envoie un message lui expliquant mon projet très simple, de prendre un billet dans les heures à venir pour le rejoindre et être avec lui la semaine suivante à Bali. Et il me répond non. Non, vraiment, tu vas pas faire ça pour moi, tu peux monter plein d'autres projets avec cet argent. J'avoue que je m'attendais pas forcément à cette réaction. Donc j'essaie de m'assurer, de savoir, mais est-ce que toi ça te plairait que je sois là? Est-ce que t'aurais pas envie qu'on passe ces 2, 3 semaines ensemble? Vraiment, moi je le peux et je le rassure, je lui dis, écoute, je peux, ça me met pas en danger, j'avais vraiment des économies liées à mes jobs d'été, j'ai très envie de venir et sache qu'il n'y a aucune pression, si on se rend compte qu'on ne se plaît pas, moi je reprends mon sac à dos et je vais vivre ma vie comme j'ai fait en Australie, comme tu sais que je sais le faire, vraiment il n'y a aucune pression quoi, je lui ai dit, c'est juste que j'ai pas envie qu'on passe à côté de ça. Il me fait comprendre que lui, ce qui l'embête énormément, c'est que je dépense autant d'argent pour le rejoindre. Parce que prendre un billet d'avion pour Bali à une semaine de Noël, c'était extrêmement cher. Et là, vraiment, je lui fais comprendre que je serais prête à tout dépenser pour le rejoindre et qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'arrêtait. Et que si lui me disait non, clairement, je ne le ferais pas. Mais que si il me disait oui, je prenais mes billets dans l'heure, peu importe le prix du billet. Donc, il me dit oui. Et là, vraiment, il se passe vraiment quelque chose de très joyeux. Donc, on est très, très heureux tous les deux. On a très bien compris l'un et l'autre qu'on se plaisait énormément à travers nos échanges et puis à travers de très nombreux sous-entendus. Mais au moment où je dois cliquer pour valider définitivement mon panier pour acheter ce billet d'avion, j'ai mis 4 heures pour vraiment le réserver en pesant tous les pour et les contre et en me demandant si vraiment j'étais pas complètement folle de prendre cette décision. Mais j'achète ce billet d'avion et donc il me reste une semaine pour préparer mon départ à Bali. La semaine se passe où on s'échange des messages tellement, tellement joyeux et on a tellement hâte et chaque jour me semble interminable et en même temps c'est un tourbillon de bonheur. On arrive à ce jour où j'ai mes affaires prêtes et je vais le rejoindre à Bali. Une fois de plus, c'est mes parents qui me déposent. Et là, aucune pleure, que de la joie, que de l'excitation, avec évidemment quand même un soupçon d'appréhension. J'avais aucune idée du toucher de sa peau, j'avais aucune idée de ce que c'était que d'être prise dans les bras par lui, enfin, tout ça restait inconnu. Et savoir si on allait vraiment bien s'entendre l'un en face de l'autre. L'histoire que je me suis idéalisée complètement, soit elle passe, soit elle casse. C'est-à-dire que soit on se plaît autant physiquement qu'on peut se plaire dans nos approches de la vie, soit on casse et donc cette histoire finalement que j'idéalisais énormément pouvait s'arrêter vraiment brusquement. Il y a aussi un sacré suspense, c'est que on ne s'était pas du tout mis d'accord sur d'une part où est-ce qu'on allait dormir, est-ce que on allait dormir dans une auberge, donc chacun dans notre lit, ou dans une chambre privée où on serait tous les deux dans le même lit. Et à côté de ça, je n'avais aucune idée de la manière dont on allait se dire bonjour. Est-ce qu'on allait s'embrasser, se prendre dans les bras, juste se faire une bise? Tout ça restait extrêmement flou et je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Plus les heures d'avion passaient, plus le stress montait. Mais c'était un stress en même temps de peur et en même temps extrêmement positif et une impatience qui était énorme. On atterrit à Bali. Je sais qu'il est là, pas très loin. Et là, je me dis, bon bah quand même, faire une petite fraîcheur dans les toilettes, il peut pas te voir à la sortie de l'avion. Sauf que lorsque je sors des toilettes, je me rends compte qu'il y a une queue, mais interminable à la douane. Et là, j'attends au moins 2 heures à la douane, donc pour passer les frontières finalement. Et je m'inquiète réellement. Je me dis, mais mince, il va imaginer que je suis pas venue, il va partir, il va penser qu'il s'est trompé d'heure, personne sera là pour me retrouver. Et donc là, je commence vraiment à stresser et à me dire, bon bah, j'espère vraiment qu'il m'attend. Je passe la douane, je marche, et là, il y a 2 portes qui s'ouvrent, et je le vois. Il est tout seul, assis sur un petit banc de béton. Il m'aperçoit, il se lève, et là, vraiment de manière tout à fait naturelle, on se prend dans les bras. Mais le meilleur câlin du monde que j'ai pu vivre dans ma vie, je pense. On se fait un câlin très tendre, mais extrêmement intense, rempli d'émotions, sans aucun mot. On ne s'est rien dit à ce moment-là. Juste, on se retrouve physiquement et c'est merveilleux. Après ce moment vraiment magique, pendant ce long câlin très tendre, c'est la première fois que nos corps se rencontrent. C'est une démultiplication des émotions, c'est vraiment une rencontre très très intense. C'est quelque chose qu'on attendait et c'était intense et magique. Et là, il m'explique qu'il a loué un scooter et qu'il allait nous conduire dans la chambre qu'il avait réservée. Donc là, je comprends qu'il a réservé une chambre rien que pour tous les deux et je suis extrêmement contente parce que moi, j'avais vraiment envie de le découvrir et vraiment envie qu'on se rapproche. Donc on arrive dans la chambre que j'ai trouvée absolument magnifique et j'ai senti vraiment toute l'attention dans le choix du lieu parce qu'il était intimiste et très calme. Il me dit qu'on va aller au restaurant. Et il m'avoue qu'il a déjà testé le restaurant et que donc il sait que c'est très bon. Donc j'ai trouvé ça très touchant aussi. Donc on est au restaurant et c'est donc le premier moment où on se retrouve tête à tête, l'un en face de l'autre. Donc on savait qu'on se connaissait très bien, mais on a passé des très longues minutes à se regarder avec beaucoup de tendresse. Et la conversation a mis du temps à s'installer, c'est-à-dire qu'on avait du mal à réaliser qu'on était vraiment l'un en face de l'autre. C'était complètement improbable. On mange effectivement des choses délicieuses. Mais on reste plus sur des regards que sur des discussions vraiment extrêmement intenses comme on avait pu avoir par écrit. Ce moment de découverte physique, finalement, de se regarder, de se toucher la main, de réaliser qu'on est là, il y avait des gestes très tendres, c'était vraiment incroyable. Et donc ensuite, on passe notre première nuit qui, elle aussi, est absolument magique. Moi qui avais vraiment connu des relations au cours desquelles j'étais très mal à l'aise avec mon corps, Lui m'a vraiment laissé le temps et a vraiment été très tendre avec moi. J'avais jamais vécu ça et j'avais jamais été aussi respectée de toute ma vie. Ça avait vraiment confirmé tous mes espoirs et je me suis vraiment dit, mais là, tu vis un rêve en fait. T'es vraiment en train de vivre. Toutes les choses que tu pouvais espérer sont en train de se réaliser sous tes yeux. T'es face à un homme qui te plaît énormément, qui est très tendre, qui est très attentif, qui est très respectueux. On se retrouve vraiment de manière magique ce soir-là. Et on commence donc ces 3 semaines de voyage ensemble à travers l'île de Bali puis l'île de Lombok, durant lesquelles on retrouve toute cette complicité, tous ces rires. Puis on découvre aussi qu'on voyage exactement de la même manière, qu'on est intéressé par les mêmes choses, que finalement on est intéressé par tout ce qu'on peut découvrir et ça, ça nous plaît énormément. On apprend toujours à mieux se connaître, donc c'est aussi dans ces moments-là que j'ai pu vraiment découvrir son caractère, parce que ce qui est assez incroyable en voyage, c'est qu'on est complètement mis à nu, parce qu'on n'est pas du tout dans un cadre dans lequel on est à l'aise. Et donc on découvre l'autre dans des conditions où finalement il est 100% lui-même, et je pense vraiment que pendant ce voyage, on était dès le début 100% nous, et qu'on a très vite vu qu'en étant 100% nous, on se plaisait beaucoup. Je décèle pas d'ombre au tableau, en tout cas rien qui m'inquiète. Évidemment, je vois des différences entre nous. On vient pas du tout du même endroit en France, donc on a vécu des enfances différentes. Et puis, il est pâtissier, donc lui n'a pas fait de grandes études. Il n'a pas forcément idée de ce que c'est que d'être étudiant à l'université en licence. Donc, je vois qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas pareil, mais finalement, il y a des points vraiment très profonds sur lesquels on est équivalent. On rit les mêmes choses, on repère les mêmes détails, on a envie des mêmes choses. Vraiment, je vis un voyage assez extraordinaire. Donc je dévoile mes sentiments et lui réagit de manière très tendre, je le sens très très touché, mais lui ne répond pas en retour, ce qui sur le coup m'a pas surprise parce que j'ai très vite compris à quel point il était pudique dans ses émotions et qu'il avait plutôt pour habitude de tout démontrer par les gestes, par l'écoute, par l'attention. Il faut dire que les derniers jours, j'ai quand même une inquiétude qui se met en place, c'est-à-dire que moi mes sentiments sont certains, sont établis, il me plaît beaucoup et j'ai pas du tout du tout envie d'être loin de lui. Vraiment, je suis dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va nous arriver, sachant que lui, il lui reste encore plusieurs mois de voyage pour continuer son périple en Asie. Et donc, le jour de mon départ, lors de notre dernier repas en commun, il me dit « Voilà, écoute, j'ai bien réfléchi et je pense qu'à la fin de mon voyage en Asie, je vais venir m'installer à Paris pour nous donner une chance. » Vraiment, c'était ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là et j'espérais très très fort qu'il soit capable de faire ça pour moi. Donc il me dit ça, je suis très touchée, et donc on va à l'aéroport, on se tient la main et on se regarde, on ne se lâche pas du regard à ce moment-là. Il y a une émotion qui est de la tristesse, et en même temps, on se rend compte tous les deux à quel point on a eu de la chance de vivre ce qu'on a vécu pendant ce voyage. Juste avant qu'on se quitte définitivement, il me déclare son amour dans l'oreille. Et là, c'est indescriptible ce que je peux sentir. À la fois, il vient de me déclarer tout son amour, et en même temps, on doit se quitter là dans les minutes si je ne veux pas louper mon avion. Je m'éloigne de lui, on se dit voilà, maintenant on se sépare pour de vrai, on se retourne pas, donc on s'est pas retourné. Moi j'ai avancé en pleurs, tout droit dans l'aéroport, j'étais limite complètement désorientée. À ce moment-là, j'ai vraiment eu un choix dans ma tête. Je me suis dit écoute, sinon tu reprends pas tes études et tu vas voyager avec lui. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit ça. Et puis j'avais ma raison et je savais que c'était très important mes études. Et même je me suis dit, mais attends, si tu veux vraiment construire quelque chose avec lui, il faut que tu aies un job. Donc va étudier, tu le retrouveras et tout ira bien. Vraiment, j'étais pleine d'espoir. J'arrive à Paris. J'arrive quelques jours après les attentats à Charlie Hebdo. Donc ma maman vient me chercher et l'ambiance est très lourde. Et elle est glaciale, je me rappelle qu'il pleuvait, je voyais ma maman très sombre. Il y a eu un contraste énorme entre nous deux. J'étais dans mon monde merveilleux, de magie absolue. Et puis quelques heures d'avion après, j'arrive à Paris dans vraiment cette ambiance très lourde et extrêmement triste. Là, je rentre dans une période où on continue à s'écrire énormément, donc il m'écrit quotidiennement. 3 mois et demi après qu'on se soit dit au revoir à Bali, il m'annonce son retour à Paris. Il me propose que ce soit moi qui vienne le chercher à l'aéroport et qu'il fasse la surprise à ses parents de revenir et de me présenter dans le même temps. Donc là, j'avais une pression mais maximum parce que j'avais déjà une envie folle de le retrouver. Donc c'est vrai que juste avant les retrouvailles, on imagine à quel point ça va être merveilleux. Et donc, cette idée que je vais rencontrer mes beaux-parents juste après, sachant que ses parents à lui ne l'avaient pas vu depuis près de 3 ans. C'est-à-dire qu'ils allaient retrouver leur fils et en même temps, j'allais être présentée à la famille. Donc, je trouvais que ça faisait beaucoup d'informations tout d'un coup. Le jour de son retour, donc, j'arrive à l'aéroport, je l'attends et puis je le vois arriver. Et puis voilà, je crois qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvés, je retombe à nouveau complètement amoureuse de lui, tellement heureuse de le voir. Encore le câlin qu'on a eu à ce moment-là était absolument incroyable. Vraiment une sensation, on se prend dans les bras dans l'aéroport, tout le monde nous entoure mais il n'y a personne autour de nous. Je rencontre ses parents, ça se passe extrêmement bien et on décide finalement de s'installer ensemble dans ma petite chambre étudiante où là du coup on vit tous les deux, c'est très joyeux. Lui, il trouve un job en tant que pâtissier en région parisienne et donc on continue, on passe nos premiers samedis à faire les courses ensemble et tout se passe très bien. On adore ça en fait. On a vraiment pris plaisir depuis le début à tout faire ensemble et des moindres détails de la vie jusqu'à continuer à voyager à travers l'Europe, etc. On a changé d'appartement plusieurs fois. On s'est beaucoup soutenu aussi, lui, par rapport à l'entreprise qu'il a montée et moi par rapport à mes études. Et l'été dernier, on a fait un nouveau voyage en Islande. Donc, c'était vraiment un pays que moi, je rêvais de découvrir absolument. Et au cours d'une randonnée dans un parc extraordinaire où les couleurs sont incroyables et les paysages remplis de végétaux et de coulées volcaniques, il m'a demandé en mariage, il m'a fait une très jolie déclaration, une très jolie demande, et puis surtout j'ai réalisé que je portais ma bague de fiançailles dans le sac à dos depuis le début, donc c'était assez rigolo. Très vite on a eu envie d'organiser ce mariage, il était prévu qu'on se marie cet été, mais suite au coronavirus, eh bien, on a reporté le mariage à l'année prochaine. Et je dois dire que l'histoire d'amour continue et qu'on continue à s'aimer autant et à construire des choses ensemble. Avec le recul, je dirais que c'était complètement fou que moi toute seule, j'écoute cette petite voix qui était persuadée que Max était l'homme de ma vie et que je la suive et que j'arrive à croire en moi et que j'aille jusqu'au bout de ce projet. Aujourd'hui, je suis tellement contente de m'être écoutée et d'avoir osé cette folie, de ne pas avoir eu peur, de prendre ses billets de l'avion et de l'avoir rejoint à l'autre bout du monde. C'est ce qui m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui et tous les bonheurs qu'on peut vivre ensemble, quoi. Vraiment, jamais je regretterai d'avoir dépensé toutes mes économies pour le rejoindre et vivre ça follement.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.